Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
Je suis dans la littérature complètement par hasard, par accident. J'ai commencé comme une espèce d'archéologue, anthropologue et bien voyageur. C'est-à-dire, je suis un archéologue, I have failed archaeological, c'est pas réussi parce que j'ai pas fait mes examens et tout ça. Enfin, mon argent était complètement épuisé, je ne pouvais pas continuer du tout. Et puis, un ami m'avait donné quelque chose pour écrire pour un revue, pour un journal ici. C'est comment je suis arrivé dans le monde littéraire.
Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary.
Bonjour à tous. Au panthéon des écrivains voyageurs, le britannique Bruce Chatwin, dont on vient d'entendre l'élégant phrasé en français, tient une place décidément à part. L'homme était, il faut le dire, un curieux mélange de dandy baroudeur, d'esthète aventurier tout aussi impatient qu'érudit, semblant à sa façon réchapper de l'ère victorienne, et pourtant il est né en 1940. Dans cette archive sonore, enregistrée par son ami Jacques Meunier et diffusée à la radio française en 1989 à la mort de Bruce Chatwin, l'écrivain confesse, et on a du mal à le croire, que la littérature lui serait tombée dessus, par hasard. Or, dès les premières lignes de l'essai biographique qu'elle lui consacre, la journaliste et auteure française Jennifer Le Sieur raconte comment Chatwin, lui aussi, lui est tombé dessus. Un livre dans la bibliothèque familiale qui lui a heurté la tête, littéralement, écrit-elle. Littérairement, on aurait envie d'ajouter. Cette semaine, Jennifer Le Sieur, auteure de « Tu marcheras dans le soleil » paru aux éditions Stock, est donc notre invitée pour ce nouvel épisode de Compagnons de route, série de portraits radiophoniques d'écrivains nomades et autres aventuriers du verbe, aujourd'hui sur les traces de Bruce Chatwin, The Journey Begins, le voyage peut commencer. Jennifer Le Sieur, bonjour.
Bonjour Céline.
Alors vous qui êtes déjà l'auteur d'une biographie de Jack London ou d'Alexandra David Neel, donc deux grandes figures des lettres et du voyage, vous avez cette fois choisi Chatwin, alors une icône de la littérature de voyage, mort du sida à 48 ans et peut-être un peu oublié aujourd'hui, même si en son temps il a envoyé un paquet de travelers sac au dos sur les pistes argentines ou australiennes, on va en reparler. Sacré voyage, sacré gageure, on a envie de dire aussi, que de suivre Bruce Chatwin, tant l'écrivain anglais avait pour habitude de brouiller les pistes, les genres littéraires, de bouger aussi, tout en Chatwin était épuisant et contagieux, vous écrivez Jennifer Le Sieur. Pourquoi ?
Épuisant parce que c'est vrai qu'il faut retrouver ses traces physiques, géographiques. Épuisant parce que c'était un être fuyant aussi dans son rapport à sa propre vie, son rapport aux autres, quelqu'un qui ne s'ouvrait pas, qui écrivait énormément mais jamais de confession personnelle sur ses petits carnets. Et contagieux parce que justement ce goût du sucré donne envie de forcer les portes, d'aller regarder peut-être derrière la muraille de sa pudeur, de ses secrets. Et ses livres, de toute façon, sont une invitation à le suivre. On ne peut pas le lire sans avoir envie de voir qui est l'homme qui écrit des textes aussi incarnés, aussi puissants.
Donc il faut y aller, il faut le suivre, parce que c'est vrai que votre livre a cette forme, ce n'est pas une biographie classique, distanciée. Vous marchez littéralement, alors dans le soleil, c'est le titre, mais sur ses traces.
Oui, le but, c'était de montrer comment cet écrivain anglais, mort il y a 30 ans, avec lequel je n'ai a priori pas grand-chose en commun, a réveillé chez moi des espèces de pulsions communes. C'était cette espèce d'envie de partir, de voyager, de rencontrer l'autre, de rencontrer d'autres cultures, de les creuser, surtout quand je n'y connais rien a priori, comme l'art afghan par exemple, ou la religion orthodoxe. Voilà, ce sont des invitations à ouvrir un peu le champ de ses connaissances. Le but était de transmettre cette fascination et peut-être, j'espère, de donner envie au lecteur de partir à son tour.
C'est ça, de voyager, parce que c'est vrai que Bruce Chatwin a fait de sa courte vie, 48 ans, un voyage, une errance même, de l'Italie au Soudan, de l'Afghanistan au Bénin, de la Grèce au Brésil et j'en passe. Une errance qu'il a connue en fait très jeune, extrait du Champ des pistes de Bruce Chatwin, paru en 1987.
Je me souviens de la fantastique instabilité qui marqua les 5 premières années de ma vie. Mon père, officier de la Navy, était toujours en mer. Et dans cette Angleterre du temps de guerre, ma mère et moi passions d'un train à l'autre pour visiter famille et amis. L'agitation frénétique de l'époque déteignit sur moi. Le sifflement de la vapeur dans une gare prise dans la brume, le double claquement des portes des voitures qui se fermaient, le vrombissement de l'avion, les projecteurs, les sirènes, le son de l'harmonica sur un quai encombré de soldats endormis. Notre maison, si nous en avions une, était une valise noire appelée la Rêve Robe, dans laquelle un coin était réservé à mes vêtements et à mon masque à gaz de Mickey Mouse. Je savais que lorsque les bombes se mettaient à tomber, je pouvais me blottir dans la Rêve Robe et y être en sécurité. Parfois, je restais pendant des mois chez mes grand-tantes, toutes les deux célibataires, dans leur maison à terrasse derrière l'église de Stratford-on-Avon. Les hommes, du côté de mon père, furent soit des citoyens bien établis et sédentaires, des avocats, des architectes, des antiquaires, ou des vagabonds fous d'horizon qui avaient éparpillé leurs ossements dans tous les coins de la planète. Cousin Charlie en Patagonie, Oncle Victor dans un camp de chercheurs d'or dans le Yukon, Oncle Robert dans un port d'Extrême-Orient, Oncle Desmond à la longue chevelure blonde, disparu à Paris sans laisser de traces. Parfois, je surprenais mes tantes parlant de ces existences gâchées, et Tante Ruth me serrait dans ses bras comme pour m'empêcher de suivre leurs pas. Malgré tout, à sa façon de traîner sur des mots tels que « Xanadu », Samarcande ou la mer lie de vin, je crois qu'elle aussi ressentait cet appel trouble du vagabond dans l'âme.
Jennifer Le Sieur, pour comprendre Bruce Chatwin et son œuvre, il faut donc puiser dans cette enfance aimante, mais ballottée dans sa généalogie aussi fantasque, propice, on peut dire, à toutes les rêveries, à tous les romans aussi après. Qui était le petit Bruce, cet enfant au nom de chien, comme il disait ?
C'était un enfant un peu rêveur, un peu renfermé, un peu agaçant aussi, parce qu'il avait un petit côté « monsieur je sais tout », qui n'écoutait pas forcément les adultes, sauf quand ceux-là lui racontaient les histoires un peu trop extraordinaires de sa généalogie. Ça doit être en partie vrai.
Il y a de la mythologie aussi.
Oui, quelques pionniers. Effectivement, il a eu des oncles qui sont partis faire fortune au Ghana, qui s'appelait la Côte de l'Or à l'époque, et qui sont retrouvés poignardés par leur boy. Il en a fait quelque chose d'un peu mythique, sa légende familiale personnelle. C'était donc un enfant qui commençait déjà à attraper des petits bouts de réel et à les transformer pour en faire une histoire déjà, des minuscules romans.
Et alors justement, quand on vous lit et qu'on découvre cette existence anglaise au départ, cette enfance, on découvre cet enfant lecteur, évidemment, c'est un peu le premier terrain d'aventure, les livres dans l'enfance. Mais ce n'est pas une littérature fantastique. Il n'aime pas Jules Verne, a priori.
Non,
lui, ce qui l'intéresse, c'est plutôt les récits de voyage.
Oui, parce que les récits de voyage à l'époque étaient plutôt réservés aux adultes. Il n'y avait pas de véritable récits de voyage consacrés au public jeunesse, aux jeunes lecteurs. Et comme il était aussi déjà un peu snob, il préférait lire ce qui était réservé aux adultes. Lui, ce qu'il voulait, c'était partir vraiment sur un voilier avec Joshua Slocum ou chercher de l'or et en revenir avec des engelures avec Jack London.
Alors le livre, c'est donc un appel au voyage, une fenêtre sur le monde, mais c'est aussi un objet, alors vous me voyez peut-être venir, un peu fétiche qu'on aime avoir dans sa bibliothèque parmi les antiquités familiales. Et très vite, le jeune Chatwin installé près de Birmingham va se révéler en fait un œil particulièrement aiguisé en matière d'antiquités, d'objets d'art, de meubles aussi.
Oui, de meubles et de poterie, de chaises, de tables qui ne devraient pas du tout intéresser un petit garçon. L'histoire de la marqueterie le passionnait à l'âge de 14 ans. Je pense que c'était quand même assez, assez inhabituel à l'époque et aujourd'hui encore. Mais ce qui le fascinait le plus, c'était les objets ramenés par son grand-oncle Charlie, voilà, qui a été exilé en Patagonie.
Alors ça, c'est la fameuse histoire du cabinet de curiosité voilà. De la grand-mère, et la, Isabelle.
Et le petit morceau de brontosaure qui allait donner le coup d'envoi à son premier grand voyage et à son premier grand livre.
Un morceau de peau qu'on a dit brontosaure et qui en fait était un morceau de paresseux géant.
Oui.
Découvert par son ancêtre, Charles Millward, justement en Patagonie.
Oui, et qu'il a envoyé en guise de très curieux cadeau de mariage à sa cousine, donc la grand-mère de Chatwin.
Et il était quand même un iconoclaste, de fait.
Oui, 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 iconoclaste, autodidacte, c'est-à-dire qu'il ne voyait pas les objets pour leur valeur véritable, mais pour la dose imaginaire qu'il lui insufflait.
Alors après, l'imaginaire, lui, va plutôt se confronter à la réalité, celui du marché de l'art, puisqu'il va entrer à quel âge ? À 18 ans.
Oui, à 18 ans.
Dans la maison de vente aux enchères, Sotheby's.
Voilà. Donc, il s'est retrouvé porteur à Sotheby's, un emploi plutôt banal. Il étiquetait et poussetait les œuvres destinées à être vendues aux enchères. Et très vite, on s'est aperçu que ce gamin un peu arrogant avait effectivement un œil très perçant, qu'il arrivait tout de suite à déterminer d'où venait tel objet, quelle était sa réelle valeur. Il arrivait à démasquer les fausses toiles, impressionnistes. Quand on lui demandait combien de temps ça lui a pris de devenir un expert en impressionnisme, il a répondu, je dirais, 2 ou 3 jours. Voilà, donc un peu arrogant, mais quand même assez doué dans son domaine.
Alors à Sotheby's, on l'a dit, cette historique maison de vente aux enchères, on faisait appel à lui pour cet œil, mais aussi pour son verbe qui allait avec, c'est-à-dire pour décrire les objets, les sublimer par le mot, parce qu'il a aussi écrit des catalogues. Et c'est vrai que c'est ce qu'on va retrouver ensuite dans ses écrits. Cette précision dans les descriptions, ce goût aussi du beau, du bizarre en même temps. Et pour en juger, il suffit de lire « En Patagonie », son premier livre publié en 1979, après 6 mois passés, dans cette langue de terre qui, telle une flèche, pointe vers le pôle sud.
Bahía Blanca est la dernière grande ville avant le désert patagonien. Bill me déposa à l'hôtel près de la station d'autocar. La salle du bar était verte, brillamment éclairée et pleine d'hommes qui jouaient aux cartes. Un garçon de la campagne se tenait près du bar. Il vacillait sur ses jambes, mais gardait la tête droite comme un gaucho. La patronne me conduisit dans une chambre à 2 lits, aux murs violets, chaudes et sans aération. C'était très bon marché, mais la femme ne me prévint pas que j'aurais à partager la chambre. Je ne pus fermer l'œil de la nuit. Aussi, le lendemain, dans le car qui traversait le désert, je regardais d'un œil comateux les bribes de nuages pâles qui tournoyaient dans le ciel, la poussière blanche qui montait des marais salants et, à l'horizon, la terre et le ciel confondus dans la même absence de couleur. La Patagonie commence sur le Rio Negro. Au milieu de la journée, l'autocar franchit le fleuve sur un pont métallique et s'arrêta devant un bar. Les maisons du village étaient construites en briques et surmontées de tuyaux de poêle noire et d'un enchevêtrement de fils électriques. Là où s'arrêtaient les maisons en dur commençaient les cabanes des Indiens. Elles étaient faites de caisses, de feuilles de plastique et de toiles à sac. À l'extérieur du village, des champs irrigués plantés de maïs et de citrouilles alternaient avec des vergers de cerisiers et d'abricotiers. Le long de la rivière, le vent retroussait les feuilles des saules et montrait leurs dessous argentés. Je gravis un sentier et, du sommet, regardais en amont dans la direction du Chili. Au-delà des collines s'étendait le désert. Aucun signe de vie, hormis un faucon et un scarabée noir qui déambulaient parmi les pierres blanches. Le désert patagonien n'est pas un désert de sable ou de cailloux, mais une étendue ininterrompue d'arbustes épineux à feuilles grises qui, écrasées, dégagent une odeur amère. Contrairement au désert d'Arabie, il n'a suscité aucune manifestation spectaculaire de spiritualité, mais il tient sa place dans le registre des expériences humaines.
Jennifer Le Sieur, ce livre, En Patagonie, devenu culte dès sa sortie, offre en fait à voir un bout du monde argentin, peuplé d'âmes aussi solitaires qu'excentriques, des pionniers gallois, des juifs russes en exil, des gauchos un peu taiseux, même très taiseux, des ancêtres aussi à l'âme aventureuse. Et la forme du livre aussi elle-même est assez surprenante, puisqu'il y a des courts chapitres, un peu comme des fragments de carnet. Et ce livre va tout de suite consacrer, alors que c'est son premier, Bruce Chatwin comme écrivain, sachant qu'avant, il n'avait rien publié, en tout cas en tant que livre. Il a quitté Sotheby's en 1965. Il a tenté un temps de devenir archéologue, ce qu'on a entendu en préambule, un failed archaeologist. Et il a publié déjà un petit peu des articles de presse. Et à ce moment-là, alors je ne sais pas si c'est le mythe, mais il est dit qu'il aurait laissé un télégramme assez laconique à l'époque à sa rédaction du Sunday Times à Londres, parti en Patagonie.
Ça, c'est ce qu'il a bien voulu raconter de lui-même plus tard. En tout cas, il n'en reste aucune trace. Ce qui est vrai, c'est qu'il a lâché son boulot, littéralement, et qu'il est parti 6 mois en Patagonie, alors qu'il avait quand même des obligations. Mais voilà, c'était une impulsion qui déjà donnait l'idée de ses impulsions à venir. C'est que rien ne pouvait le rattacher à l'Angleterre où il s'ennuyait à mourir, ni son épouse Elisabeth, ni ses obligations professionnelles. Il fallait qu'il parte à ce moment-là, en plein mois de décembre, en Patagonie, pour retrouver les origines de ce morceau de brontosaure qui l'avait tellement impressionné quand il était enfant. Et retrouver par là cette envie de voir une terre du bout du monde, sur laquelle très peu de gens avaient encore écrit, de montrer qu'il avait l'œil non seulement pour l'art, mais aussi pour les gens, qu'il avait aussi l'oreille suffisamment fine pour écouter les histoires et les secrets des gens qu'il a rencontrés. Ça en a d'ailleurs heurté quelques-uns, qui n'ont pas tellement aimé ensuite retrouver leur vie plus ou moins fantasmé d'ailleurs, dans un livre qui s'est écoulé à des millions d'exemplaires et qui a été traduit un peu partout. Aujourd'hui encore, je sais qu'en Argentine, en Patagonie n'est pas un livre très apprécié, même si j'en ai trouvé un exemplaire dans les librairies d'Ushuaïa, par exemple.
Parce que c'est vrai que Chatwin, vous l'avez dit, c'est vraiment la grande comédie humaine, une collection de vies. C'est un mot de Philippe Lançon, un écrivain et journaliste français, qui a dit de lui « c'était un collectionneur de vies lointaines ». Ça lui va très bien.
Oui, complètement, oui. De vies lointaines, de vies d'exil, parce qu'il était fasciné d'abord par les nomades. C'était quand même la grande passion de sa vie. Il a essayé
C'était d'ailleurs son premier projet de livre.
Oui,
c'était pas en Patagonie.
Nomade, un manuscrit dans lequel il a mis beaucoup trop de choses et beaucoup trop de cœur et trop de temps, j'imagine. Mais les nomades sont restés au cœur de ses intérêts, de ses passions. Et l'exil, voilà, les personnalités exilés politiquement, économiquement, ces Gallois qui ont quitté la misère du pays de Galles pour aller s'installer dans une terre encore plus noire, encore plus aride, mais au moins les Anglais leur fichaient la paix là-bas. Voilà. Et de pouvoir retrouver les traces de ces gens qu'on n'avait jamais interrogés, sur lesquels personne n'avait jamais écrit, ça dans une sorte de patchwork incroyable d'impressions, de sensations. Il se met un peu en scène lui aussi et raconte ce que c'est de partir avec juste un petit sac à dos et des chaussures de marche sur une terre qui fait des milliers de kilomètres, à marcher parfois pendant 3 jours sans voir personne, avec une petite gourde d'eau. C'était l'aventure.
Mais justement, vous parliez des exilés, c'était aussi un peu son histoire. Il était à plusieurs facettes, double déjà de par sa sexualité. Il était marié, hétérosexuel a priori, et en même temps homosexuel, coureur, beaucoup, très séducteur. Il était un coup en Angleterre, un coup à l'autre bout du monde. Il était écrivant en tout cas au départ, finalement consacré. Mais il a toujours été comme ça, dans cet entre-deux permanent.
Oui, même un entre 3, un entre 4, si vous voulez, parce qu'il a, il était tellement insaisissable, mais vraiment dans tous les sens du terme. C'était quelqu'un qui a beaucoup médité sur l'aphorisme de Pascal, qui disait que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, c'est qu'il ne sait pas tenir tranquille dans une chambre. Lui, c'était exactement ça. Il disait « je suis insupportable si je reste 2 semaines au même endroit ». C'était quelqu'un qui arrivait à absorber, à se fondre dans les milieux les plus variés.
Et interlope aussi.
Oui, 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 bien sûr. Oui. Ça, c'était plus sa partie intime. Vie privée. Voilà, les secrets de sa vie intime, parfois assez ténébreux. Mais pour ce qui est de son œuvre, oui, c'est une véritable incarnation dans un paysage et dans des peuples.
Alors on pense notamment, moi j'ai pensé à Joseph Kessel, et en même temps, il n'y a pas la grande histoire politique, il n'y a pas cette idée d'engagement, de grande histoire. Lui, c'est plutôt la petite histoire, il n'y a pas vraiment de dogme, de religion. Son dieu, même il l'a écrit, c'était celui des marcheurs. Il avait besoin d'engager son corps aussi.
Oui, c'est vrai, ça rend aussi son œuvre intemporelle. La politique l'intéressait assez peu. Il savait bien qu'il ne changerait pas le monde avec ses écrits, que les histoires de dictateurs, même s'il en a croisé, étaient juste bonnes à fournir un bon papier. Son combat à lui, en effet, était celui de la route, de la marche, des pistes pas explorées, aussi bien littéraires que géographiques. Quand il choisissait ses livres préférés, c'était toujours d'obscurs classiques, et quand il voulait partir en voyage, c'était pas dans les Baléares, mais au Soudan, voilà son premier grand voyage.
Quand il a quitté Sotheby's en 66 à peu près.
Voilà, c'était pour partir au Soudan, et il a bien fait, parce que ça a ouvert aussi la voie à ses voyages futurs.
Et alors, quand on parle de Bruce Chatwin, il y a ces mots, effectivement, griffonnés sur ces fameux carnets, les Moleskine, pour ne pas citer la marque. Mais il y a aussi des images qui ont contribué à faire de lui une icône, encore plus le fameux grand écrivain voyageur, même si je crois qu'il n'aimait pas trop le terme. Il y a notamment ce portrait où on le voit un peu de biais, en noir et blanc, avec une veste froissée, ses petits godillots de marche et son sac à dos en cuir sur l'épaule. Ça, c'est l'image la plus connue, la plus iconique de l'écrivain voyageur
qu'on a lu. Elle est aussi célèbre que ce portrait de Jack London qu'il montre en veste de cuir sur son yacht, les cheveux ébouriffés au vent. Voilà, c'est des images un peu d'épinal de baroudeur, mais en tout cas que je trouve toujours très efficace.
Et alors à l'opposé, il y a aussi ce portrait qui est étonnamment pudique et beaucoup moins connu par le photographe américain Robert Mapplethorpe. On voit Chatwin au contraire en de feuilles côtes, col fermé, en gros plan. Sachant que Mapplethorpe, c'était l'ange noir, on peut dire, des nuits new-yorkaises des années 70, surtout connu pour ses images de nus masculins. Et il dira d'ailleurs que Chatwin, c'est le seul homme qu'il ait voulu photographier habillé. Tout de suite sur RFI, c'est Pale Blue Eyes des Velvet Underground, repris ici par la grande chanteuse et poétesse Patti Smith, âme sœur aussi de Mapplethorpe.
Lately, I'm just feeling bad. si loin, si proche, voyage sur RFI.
Il était très très intelligent et beau. oui, il est notable. Il avait deux occupations, les antiquités et l'autre côté, les peintures impressionnisme et moderne et tout ça. Notre premier voyage, on a commencé par les petits voyages en Angleterre, au Pays des Galles. Après, nous sommes mariés, en Amérique. Ils sont restés à New York et puis il a quitté Sotheby's en 66 et puis il est allé à Edinburgh. Mais c'est pas possible de faire une liste de ses voyages, de ses mouvements, parce qu'il rentrait ici un jour, deux jours peut-être, et puis encore il se met en voyage à Barcelone ou on ne sait pas, Norvège. C'est toujours comme ça. Comme les nomades, ils ont toujours un point de retour. Il se voyait comme un nomade. Mais il y avait toujours ça. Il fallait entrer. Autrement, he would have been lost, you know. But he was not lost.
Bruce Chatwin, écrivain anglais nomade, avait en horreur la vie sédentaire. Sur son passeport à la rubrique profession, il avait écrit agriculteur. Peut-être parce que sa femme, Elisabeth, que l'on vient d'entendre dans cet archivina France Culture de 2003, peut-être parce que sa femme élevait dans la verte campagne anglaise des moutons. Jennifer Le Sieur, pour votre biographie de Bruce Chatwin, Tu marcheras dans le soleil, vous l'avez rencontré, Elisabeth, bien sûr.
Oui, c'était indispensable. J'aurais pas pu écrire ce livre sans l'accord d'Elisabeth.
Oui, parce qu'elle veille littéralement sur l'œuvre et la mémoire de Chatwin.
Oui, sans être l'exécutrice testamentaire officielle, on va dire administrative de l'œuvre, c'est bien sûr sa caution morale. C'est elle qui gère l'image de son mari. Et cette archive me touche beaucoup parce qu'elle parle très bien français. Elle m'a toujours dit qu'elle ne parlait pas français. Donc, chacune de nos rencontres s'est faite en anglais, ce qui ne change pas grand-chose parce que quand je l'ai rencontrée, je ne pouvais pas en placer une. C'est elle qui parlait. Et elle est
incroyable.
Mais c'est une femme, j'ai l'impression, je n'ai pas connu Chatwin, bien sûr, puisque j'avais 10 ans quand il est mort, mais il avait la réputation d'être incroyablement bavard.
Et oui, on l'appelait Chatty.
Chatty. Et Elisabeth, je pense, est un petit peu comme ça aussi. C'est une petite femme menue qui irradie une énergie immense. Et elle parle. Mais tout ce qu'elle dit est intéressant. Quand j'ai été la voir dans sa ferme de l'Oxfordshire, à peine j'étais entrée, ça y est, elle me racontait tout ce qu'il y avait dans sa bibliothèque, sur ses étagères. Et elle allumait sa gitane qui enfumait toute la maison. Et elle parlait. J'aurais pu rester des heures à l'écouter comme ça. Elle est assez incroyable.
Alors, quelle femme, mais aussi, on peut dire, quel couple, tous les deux. Bruce, cet anglais insaisissable, elle, l'américaine patiente, mais aussi très indépendante. Parce qu'ils se sont rencontrés donc à Sotheby's et se sont mariés en 65. Ensemble, en fait, ils ont voyagé, peu, en tout cas beaucoup moins que Bruce l'a fait, même si elle le rejoignait parfois, notamment en Afghanistan. Ils se sont beaucoup écrits, la correspondance est très riche, la correspondance à Elisabeth, mais pas seulement. Et c'est vrai qu'elle, aujourd'hui, Elisabeth, a déposé l'ensemble de toutes ses archives, les Chatwin Papers, à l'université d'Oxford, que vous êtes allée consulter. On vous suit comme ça dans votre livre, vous y allez presque à petits pas, avec déférence un peu, j'imagine, comme quand vous êtes allée rencontrer Elisabeth.
Oui, je raconte en effet la plongée dans les archives, dans les petits carnets qui font partie de la symbolique chatwinienne.
Qui sont finalement à l'image aussi de son mouvement, c'est-à-dire que c'était éparpillé.
Oui. Ah oui, j'ai eu un mal fou déjà à choisir les bons. Il y en a 85 qui sont conservés. Voilà, la Bodleian Library, qui est la plus ancienne bibliothèque universitaire au monde. Tout est à l'anglaise, hein, très bien étiqueté, très bien rangé. Mais je ne pouvais pas tout consulter. Et surtout, pour déchiffrer son écriture, ces espèces de petites pattes de mouche, souvent écrites au crayon à papier. Alors ça bave un peu, d'où ma déférence peut-être, parce qu'on ne m'avait pas donné de gants. Alors je tournais les pages très délicatement pour pas qu'elles s'effritent sous les mains.
Et qu'est-ce que ça vous a appris?
Alors, il faut, pour comprendre un personnage mort, aller sur ses traces physiques, il faut aller là où il est allé et il faut aller là où il a laissé ses traces littéraires. Voir ses carnets, ça m'a montré presque ses empreintes digitales. Ça m'a montré les ratures, les corrections. J'ai découvert un poème de Sandrars traduit en dernière page d'un carnet, les traces de pages arrachées. Voilà, ça aussi, ça...
Parce qu'il écrivait aussi en marchant, en voyageant, ce qui est assez rare.
Et son écriture est aussi compulsive que son déplacement. Et ça, ses carnets le montrent très bien. Il en commence un en Afghanistan dans les années 60, il le termine en Italie au début des années 80. Et il n'y a aucun lien entre les deux, donc c'est un cauchemar pour un chercheur, mais qui reflète bien aussi cet esprit éclaté qui allait partout et qui n'allait jamais nulle part, je précise, et qui finit par une pensée claire, nette et des livres parfaitement construits. Ça, c'est assez fascinant. Si vous voyez la tête de mes carnets, je crois qu'ils sont à peu près aussi illisibles que les siens maintenant.
Avec ce cœur de femme du Ghana par Popol Vuh, tiré de la bande originale du film de Werner Herzog, Cobra Verde, une adaptation du deuxième livre, Vice-roi de Ouida, de Bruce Chatwin, on prend désormais Jennifer Le Sieur, la direction des côtes africaines dans le golfe du Bénin. À l'époque où Bruce Chatwin y pose le pied pour la première fois, en 1971, on parle encore du Dahomey. Là-bas, l'écrivain s'est mis en tête de suivre les traces d'un sulfureux et très puissant personnage, un trafiquant d'esclaves brésilien.
Une histoire fascinante, une histoire vraie de ce Brésilien exilé.
Francisco
encore,
hein, Félix de Souza, de son vrai nom.
Souza, voilà, oui, exilé malgré lui aussi sur les côtes africaines et qui a donné une descendance si nombreuse que le sang blanc de ce négrier s'est complètement dissous aujourd'hui, mais que plusieurs dizaines de personnes aujourd'hui s'appellent encore de Souza.
Sachant qu'il a été un des hommes les plus riches d'Afrique occidentale, ruiné à la fin, très proche du pouvoir, dans toutes ses intrigues entre les différents rois d'Abomey. Et il en a fait un personnage de fiction, puisqu'il ne parle pas de Souza dans son livre, il parle de Da Silva, qu'il a renommé, parce qu'en fait un événement va l'empêcher, il le dit d'ailleurs en préambule de ce livre, va l'empêcher d'aller plus loin dans ses recherches.
Oui, le manque de sources était flagrant. Il avait surtout les témoignages de ses descendants qui lui vouent un culte assez incompréhensible parce qu'on parle quand même d'un trafiquant d'esclaves. Mais il était si puissant, si connu que maintenant ses descendants se réclament fièrement de lui et fêtent toujours en grande pompe ses anniversaires. Mais voilà, le manque de sources l'a conduit à aller plus dans le domaine de la fiction. On sera bien en peine aujourd'hui de démêler le vrai du faux, tellement dans ce roman qui est très court, qui est assez brutal et que je trouve magnifiquement écrit.
Et qui a surpris beaucoup de gens aussi.
Oui, parce qu'on s'attendait à En Patagonie 2, on s'attendait à Au Dahomey par Bruce Chatwin.
Au Bénin, on dirait aujourd'hui.
Voilà, puisque quand il y est retourné une deuxième fois, quelques années plus tard, c'était devenu le Bénin. Surtout que quand il est du Bénin.
Tout à fait. Et quand il y est revenu, c'est là où je voulais en venir, et c'est ce qu'il explique, il n'a pas pu aller plus loin dans ses recherches parce qu'il s'est retrouvé, alors là, pour le coup, mêlé à la grande histoire, même s'il la fuyait le plus souvent. Donc en janvier 1977, un 16 janvier, une date que peut-être certains de nos auditeurs ont encore en mémoire, où là, on le prend pour un mercenaire. Il est en plein milieu d'un coup d'État.
Oui.
Celui de Bob Denard et toutes ces troupes de mercenaires qui ont, en une matinée, essayé de renverser le pouvoir de Kérékou.
Voilà, il s'est trouvé à l'endroit, au moment où il ne fallait pas, l'endroit où il ne fallait pas, sauf après pour raconter une bonne histoire. Il s'est caché dans un placard, on n'a pas tardé à le retrouver, il s'est retrouvé incarcéré pendant 3 jours. Ça l'a passablement traumatisé. Là aussi, il a écrit dessus, il en a fait une histoire pour un magazine, ça s'appelle « Un coup d'État », tout simplement. Il tourne ça un peu à la dérision, mais il a eu chaud ce jour-là.
Alors, en dehors de cet épisode traumatique, quel était le rapport de Chatwin au continent africain? Parce que, on l'a dit, il est allé au Soudan en 1966, c'était son premier grand voyage vers le continent. Il est allé aussi au Niger, en Mauritanie, au Sénégal, etc. Et on a l'impression, à le lire, qu'il avait quand même cette vision assez lointaine, peut-être d'Épinal aussi, d'une Afrique un peu immémorielle. Il se penchait évidemment, on a parlé de l'alternative nomade qui était sa marotte, ce premier livre jamais publié. On avait l'impression qu'il était toujours tourné vers ses hommes et vers ses peuples nomades.
Oui, c'est vrai. Il a écrit des mots magnifiques sur ses carnets qui n'ont jamais été publiés, justement sur ses peuples nomades, et en particulier en Mauritanie. Comme il parlait assez bien français, il arrivait à communiquer assez facilement. Aussi au Mali, il s'était fait beaucoup d'amis. Y a ça d'une part, et aussi une question de couleur. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'était quand même un homme d'image. Il a pris énormément de photographies. Certaines ont été réunies dans un très bel album qui est aujourd'hui épuisé. Il mériterait qu'on fasse une exposition de ces photos. Personne ne l'a jamais vu avec un appareil photo à la main. Et pourtant, il avait un petit Leica de poche qui sortait de son Bermuda. Et il a pris des photos stupéfiantes d'hommes, de femmes, parce qu'il adorait l'indigo, notamment des vêtements des nomades. Ces flashs de couleurs qui l'ont poursuivi jusqu'à la fin de sa vie.
Alors, en parlant des nomades, il y a un autre peuple qui va le fasciner, bien plus que les Bororos du Niger ou les Maures du Sahara, ce sont les aborigènes d'Australie. Chatwin leur consacrera en effet un ouvrage resté dans les annales, Le Champ des Pistes, paru en 1987, une grande saga ethnographique, métaphysique sur ces songlines, des itinéraires chantés transmis par les ancêtres. Manon Meyer-Ilfigé a rencontré Jessica Largie Healy, anthropologue au CNRS, pour parler de ces songlines et de Chatwin, bien sûr.
Il y a cette idée que le monde a été créé par le chant. Et donc, les êtres ancestraux, qui étaient souvent soit des humains, soit des animaux, soit des phénomènes naturels, ils ont traversé le paysage en créant différents sites et en changeant de langue quand ils passaient sur le territoire du prochain groupe aborigène. Quand les gens chantent, les hommes et les femmes, puisque les femmes chantent aussi, ils vont, dans leur esprit, accomplir ce voyage qui a été chanté par l'être ancestral, tout en devenant l'être ancestral lui-même, en ressentant les mêmes émotions, les mêmes ressentis que cet être ancestral, en traversant différents lieux. Par exemple, le soleil qui chauffe la peau, le reflet d'un rayon de soleil sur un oiseau ou sur l'eau, le vent, etc., un frisson de froid à cause du vent. Donc ils vont raconter tous leurs ressentis et leurs perceptions autour d'un lieu. Vis-à-vis des écrits de Bruce Chatwin, sur la culture aborigène se sont faits à partir de discussions qu'il a eues avec des non-aborigènes, ce qui est effectivement problématique pour cerner de l'intérieur en fait, la profondeur de ce que c'est que ces pistes. Il avait une sorte d'image d'Épinal, hein, des aborigènes, et c'est celle-là qu'il a transmise dans son ouvrage. Disons, là où il a joué un rôle quand même très important, c'est de diffuser ce terme de songlines, qui maintenant fait partie des termes que les gens ont en tête quand ils pensent à la culture aborigène, parce que c'est un livre qui a eu énormément de succès, qui a vraiment marqué des tas de gens. Et il y a toujours des tas de gens qui leur première approche à la culture aborigène, c'est à travers ce livre. Donc ça donne une idée de le côté vertigineux en fait de ces pistes de chant qui couvrent tout le continent, donc ça donne bien cet aspect-là, mais c'est vrai que ça va pas en profondeur sur qu'est-ce que sont vraiment ces chants pour les aborigènes.
Jennifer Le Sieur, Bruce Chatwin disait, à partir de ces songlines, ces itinéraires chantés, qu'on pouvait en fait lire la totalité de l'Australie comme une partition musicale. Alors, cette cosmogonie aborigène aux allures de GPS chanté, ça ce sont mes mots, en dit long finalement sur ces cultures ancestrales, orales, où le voyage à pied relève à la fois, on l'a entendu, du mythe de la création, mais aussi de la réalité. Et c'est ça qui a fasciné Bruce Chatwin. Comment il a eu l'idée, comment il s'est lancé comme ça tout d'un coup vers l'Océanie, l'Australie et autour de ses songlines, ses itinéraires aborigènes.
À l'époque où il a eu cette idée, il était un peu coincé. Il cherchait une idée pour un prochain livre, mais une idée qui le hante assez et qui l'obsède assez pour avoir envie d'y consacrer du temps.
Sachant qu'on est dans les années 80 à peu près.
Voilà, c'est le début des années 80. C'est un auteur déjà reconnu qui n'aura pas de mal à convaincre son éditeur d'un prochain livre, même si le sujet n'est pas du tout commercial. Et en parlant avec un ethnologue, il a été mis sur la piste, c'est le cas de le dire, de Theodore Strello, qui est donc un ethnologue australien qui a travaillé le premier en profondeur sur ces fameuses songlines.
Dont il va rencontrer la veuve,
voilà,
qui va lui ouvrir toutes ses archives et ses travaux, parce que c'est souvent comme ça qu'il travaille.
Oui, sans savoir que Strello était déjà une personnalité, il était mort à l'époque, mais une personnalité un peu controversée. On lui a reproché d'avoir percé des secrets qui ne lui étaient pas destinés, d'avoir garder en pension des objets sacrés qu'il était censé rendre. Il arrivait un peu dans un territoire épineux.
À un moment où aussi, et encore aujourd'hui d'ailleurs, les aborigènes, la question de la dépossession des terres, l'acculturation était au cœur des enjeux, des débats.
Oui, c'est un peuple qui a énormément souffert, comme beaucoup de peuples autochtones, de la mainmise des anglo-saxons, surtout au début du XXe siècle. Ils ont été dépossédés de leurs terres et quand Chatwin est arrivé, il y avait ce mouvement du droit à la terre qui œuvrait justement pour rendre aux aborigènes leurs terres. Et lui, ce petit Anglais naïf et charmant, arrive avec ses petits sabots et croit qu'il va percer le mystère aborigène, le mystère de la cosmogonie qui est incroyablement complexe. Les ethnologues le disent eux-mêmes, une vie entière à étudier les aborigènes ne suffirait pas. Il faut vraiment être aborigène soi-même pour pouvoir comprendre les ramifications de cette culture qui est vraiment fascinante. Mais même en ne comprenant que la surface, je me mets à la place de Chatwin, c'est d'une poésie inouïe et on a envie d'écrire dessus, de creuser un peu.
Tout ce livre, Le Chant des Pistes, qui là aussi a une forme assez étonnante puisqu'on le suit, donc l'auteur Chatwin, Bruce, en compagnie d'Arcadie, dans les territoires du Nord à la rencontre des aborigènes et de leurs sites sacrés. Et en même temps, on a aussi des réflexions, des citations sur le voyage, sur le nomadisme, il y a des proverbes bédouins, indiens, autres. Donc on voit très bien que justement cette question autochtone et ce droit à la terre, c'est plus une toile de fond à certains endroits, mais c'est pas non plus quelque chose dont il s'empare véritablement.
C'est un peu ça, oui. On peut dire que c'est le bréviaire de sa vie de voyageur. Il parle d'anthropologie, il parle de géographie, il parle d'histoire, il parle d'art, et tout en mettant en scène des hommes et des femmes, les uns assez héroïques et généreux, les autres brûlés par l'alcool et le soleil. Voilà, c'est une très bonne synthèse, ce chant des pistes, une synthèse poétique de ce que Chatwin savait faire à merveille.
Sachant qu'il y avait aussi au cœur cette idée d'une sagesse autochtone, aborigène ici en l'occurrence, en opposition à un Occident décadent, fichu, quoi, en quelque sorte.
Oui, l'Australie qui dépeint est aussi assez fichue par endroits, il faut dire.
Mais de manière plus large, c'est vrai que c'était aussi son regard. On sentait qu'il allait trouver refuge dans la pensée, dans la vision qu'il avait des nomades, en opposition à cette Angleterre ou à ce Royaume-Uni qu'il conspuait.
Oui, il idéalisait sûrement aussi un peu la vie des nomades. C'était une sorte de refuge pour lui parce qu'il n'était pas nomade lui-même, enfin, à part évidemment dans le sens contemporain, un peu hobo du terme. C'est une pulsion de vie qui l'a aussi conduit à voyager sans cesse. Je ne veux pas y voir seulement la fuite à des problèmes, à un mal-être, à des tortures mentales. Je veux aussi y voir une grande envie, une grande envie vitale.
Alors l'Australie sera le dernier grand voyage de Bruce Chatwin, qui se sait malade, mais refusera finalement jusqu'à sa mort de nommer même cette maladie, le virus qui le ronge, le VIH. Et il va mourir donc dans le sud de la France, comme Rimbaud, qu'il admirait, le 18 janvier 1989. Et jusqu'à son dernier souffle, c'est vrai, il y avait aussi cet élan de vie, de création aussi. Il va imaginer un opéra autour de Rimbaud, justement. Il va finaliser son dernier roman, Utz. Il va aussi réunir ses écrits dans les journaux, ses portraits sous le titre « Qu'est-ce que je fais là ?» mais sans le point d'interrogation. Comment on interprète cette question qu'en est plus une, en fait ?
Le « qu'est-ce que je fais là ?», ça doit accompagner toute une vie. C'est un peu ce que je raconte dans les premières pages de mon livre, c'est que j'ai trouvé un carnet de voyage de mes 8 ans, où j'avais écrit « voyager, c'est ne jamais se demander qu'est-ce qu'on fait là ?». J'avais dû trouver ça quelque part, parce qu'à 8 ans, j'aurais été bien incapable de trouver une phrase pareille. Mais déjà, se poser la question, c'est être déjà ailleurs, c'est être déjà parti ou c'est être sur le point de partir. C'est pas dans le sens « qu'est-ce que je fais là ?»
Ça, ce serait le point d'exclamation.
Oui, voilà, non, enlever la ponctuation, c'est « qu'est-ce que je fais là ?» Enfin, comment j'habite le moment, comment j'habite la terre où je suis. Et c'est l'écriture qui l'a centré, finalement. C'est ça qui lui a permis de ne pas perdre pied, de ne pas être un feu follet ou une boussole sans aiguille, comme on a bien voulu le décrire. C'est arriver à concentrer le monde dans des pages et à pouvoir faire partager ce monde à des lecteurs. Le sens de sa vie, c'était vraiment l'écriture, à parts égales avec le voyage, mais puisque on ne peut pas se demander s'il voyageait pour écrire ou s'il écrivait pour voyager, c'est vraiment les deux sont complètement lié. C'est avant tout un écrivain qui voyageait.
Jennifer Le Sieur, merci.
Merci Céline.
Je rappelle le titre de votre ouvrage paru aux éditions Stock et consacré à Bruce Chatwin, Tu marcheras dans le soleil. Auditeurs voyageurs, vous pouvez écouter en podcast d'autres épisodes de notre collection de portraits d'écrivains voyageurs, compagnons de route sur notre site et toutes les bonnes applis, vous y serez en très bonne compagnie. Laura Larry, Céline Develay-Mazurel et Manon Meyer-Ilfugé, on vous salue et on vous souhaite une bonne semaine à l'écoute de RFI.